Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
La grande tournée du grand débat s'est donc installée ce soir, salle Claude Nougaro à Évry, Courcouronne, en banlieue plutôt, comme dirait désormais le président de la République, dans un quartier, selon le terme employé par Emmanuel Macron. Bonsoir Olivier Bost.
Bonsoir.
L'ambiance après, et puis la qualité des débats, surtout après, je le disais, plus de 4 heures quand même de rencontre avec les élus. Hein.
Oui, plus de 4 heures de débat encore et une certaine lassitude de la part des élus et des associatifs. Abdel Abouraïm habite à Brétigny-sur-Orge et résume ce sentiment.
C'est un débat où on tourne un peu en rond parce que ça fait 40 ans qu'on parle des politiques de la ville, mais ça fait 40 ans que ça ne marche pas entièrement, en tout cas complètement. J'attends de voir le plus les résultats parce que les problèmes, ils sont connus.
Ces problèmes, estiment beaucoup d'élus et de responsables d'associations, ont déjà été recensés lors du plan banlieue de Jean-Louis Borloo. Ce rendez-vous manqué avec la banlieue pour Gilles Leproust, maire d'Allône dans la banlieue du Mans.
Certains s'étonnent que les habitants des quartiers sont peu mobilisés dans le grand débat national. C'est qu'on était un peu chaudés. Vous aviez désigné Jean-Louis Borloo et puis, pour nous, c'était une douche froide. Et pas que pour nous, y compris pour les associations, les habitants des quartiers qu'on avait beaucoup mobilisés. Donc je souhaite que, après le 15 mars, on ne se retrouve pas dans la même douche froide, parce que la colère, parfois, elle peut se traduire de mauvaise façon.
Emmanuel Macron ne lui répond pas sur le plan Borloo, rejeté. En revanche, il fait ce soir un mea culpa sur l'abandon massif des emplois aidés au début de son mandat.
Les choses ont été très vite. Mais ça a été une mesure que le gouvernement a portée, qui, je pense, dont la philosophie est bonne, mais force est de constater, dans des lieux où le tissu était fragile, qui a fait souffrir.
Emmanuel Macron a promis que le débat ne se clôturerait pas de manière classique, sans dire tout de même s'il voulait en faire un référendum, comme c'est évoqué maintenant depuis quelques jours.
Il est vrai, merci beaucoup Olivier Bost, service politique d'RTL et puis invité d'RTL Grand Soir dès la fin de ce journal. Un grand témoin, le rappeur et président de l'association Banlieue Active, c'est le rappeur Rost qui sera notre invité. Il sera intéressant d'avoir son regard sur cette grande discussion dans les banlieues oubliées pour l'instant. Et puis notez que le prochain débat se déroulera en région, en Saône-et-Loire, à Autun. Avec, au-delà du traditionnel débat avec les élus, il y aura ce jour-là une rencontre avec les jeunes. 22h03, le feuilleton Benalla, suite après la diffusion par Mediapart d'une conversation confidentielle en fin de semaine dernière entre l'ancien collaborateur de l'Élysée et un ancien employé de La République En Marche, Vincent Crase. Eh bien, une enquête du parquet de Paris a été commandée pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Et les responsables du site d'information ont, Thomas Proutot, ce matin, refusé carrément une perquisition de leurs locaux.
Absolument. Le procureur adjoint de Paris, accompagné de 3 policiers, dont un commissaire de la brigade criminelle. On surgit un peu après 11h au siège du journal. Le magistrat a demandé à récupérer les enregistrements de Benalla et Crase. Refus immédiat des journalistes présents. Refus légal, d'ailleurs, dans le cadre d'une enquête préliminaire. Mais surtout, l'équipe de Mediapart a précisé tout à l'heure en conférence de presse que dès ce matin, le journal avait accepté de transmettre les documents audio au juge qui enquête sur l'affaire Benalla. Pour Edoui Plenel, le directeur de Mediapart, il s'agit donc clairement d'une opération d'intimidation.
Dans une affaire qui concerne au plus haut point la présidence de la République, dans une affaire où M. Macron n'a cessé de réclamer l'indulgence pour M. Benalla et de le protéger, alors que nous révélons des faits d'intérêt public, le parquet de Paris, le nouveau procureur de la République, n'a d'autre urgence de venir porter atteinte à une liberté fondamentale.
En l'espèce, le secret des sources et la liberté de la presse. Les perquisitions sont en effet rarissimes dans les rédactions. Justification du parquet de Paris, une enquête pour atteinte à la vie privée et surtout pour détention illicite d'un appareil de captation. En clair, le soupçon d'une opération illégale pour enregistrer la conversation d'Alexandre Benalla, ce que Mediapart dément fermement ce soir.
Thomas Proutot, service police-justice d'RTL. Pouvoir d'achat, justice, budget, impôts, l'État, en plein cœur du débat citoyen du moment, cherche, creuse pour trouver des solutions. Et son ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a décidé ce matin, Christophe Ponzio, d'attaquer aux fameuses niches fiscales, mais sans garantie de faire rentrer l'argent pour tout le monde, puisque la moitié des 14 milliards récupérés irait aujourd'hui mathématiquement dans les poches des plus riches contribuables, Christophe.
Oui, c'était pour eux près de 2 fois le montant rapporté par l'ISF, 7 milliards d'euros de crédits ou de réductions d'impôts qui vont directement dans la poche des classes les plus aisées, adeptes de l'optimisation fiscale. Et dans le palmarès des niches les plus prisées, on retrouve les dons aux associations, les emplois à domicile, les investissements locatifs dans l'immobilier, type Pinel ou Cellier, ou encore les travaux de rénovation pour sa résidence principale. L'idée serait donc soit de baisser les plafonds pour bénéficier de la ristourne, il ils sont fixés généralement à 10 000 euros, soit d'introduire des conditions de ressources pour plus de justice fiscale, note le ministre Gérald Darmanin.
Peut-être que l'on pourrait se dire que lorsque l'on change son simple vitrage pour passer en double vitrage, la classe moyenne mériterait d'être aidée du fait de la transition écologique et que les gens qui gagnent beaucoup d'argent pourraient peut-être le financer en partie eux-mêmes. Voilà, c'est une proposition. Puisque je suis citoyen de la République, je me semble que j'ai aussi le droit de donner quelques idées.
Proposition des plus populaires sur le site du Grand Débat, la Cour des comptes dénombre aujourd'hui quelques 450 niches fiscales, mais pour les toilettés, cela pourrait s'avérer compliqué, techniquement déjà, et puis ensuite parce que de nombreux avantages sont positifs pour l'économie, notamment pour le bâtiment, la construction et tous les emplois à domicile qui limitent le recours au travail au noir.
Christophe Pondio, service économie et sociale d'RTL.
RTL Grand Soir.
Avec Christophe Paco.
Une nouvelle formule qui fait débat depuis des mois et une question désormais qui concerne le Lévothyrox, nouvelle génération destinée aux malades de la thyroïde. Ce Lévothyrox tant décrié a-t-il tué ? En tout cas, le parquet de Marseille enquête après le décès de deux malades désormais. Et Jacques Seret, ils enquêtent sur des soupçons d'homicide involontaire.
Oui, homicide, un mot qui change tout ou presque dans cette enquête, car depuis le début, l'Agence nationale de sécurité du médicament affirme qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la prise de Lévothyrox nouvelle formule et des cas de décès, 14 morts d'après la NSM, mais qui n'étaient pas dus aux médicaments selon les autorités. Là, le parquet de Marseille revient donc sur cette affirmation. L'enquête se penche sur au moins un de ces décès, d'où l'ouverture de ce nouveau volet judiciaire, alors que les signalements de patients subissant des effets indésirables ont explosé. Plus de 31 000 personnes auraient subi fatigues intenses, maux de tête, crampes, voire état dépressif suite à la prise de la nouvelle formule. Un chiffre à mettre en relief avec les 2,2 millions de patients traités avec ce médicament. Depuis, le laboratoire Merck a été condamné par la justice à mettre à disposition des pharmacies son produit sous son ancienne formule.
Merci Jacques Seret. Document RTLM6, notre envoyé spécial au Venezuela, Sinamir, a pu rencontrer Juan Guaido, président autoproclamé et reconnu notamment par une majorité de pays européens, dont la France. Et il a salué d'ailleurs, Juan Guaido, le soutien d'Emmanuel Macron aujourd'hui.
Comme vous avez l'habitude de le dire, liberté, égalité, fraternité. La reconnaissance de la France et de l'Europe est un appui très puissant pour les Vénézuéliens qui combattent et qui se sacrifient pour se faire entendre. Pour la liberté et la démocratie et la justice sociale d'un pays qui a un tel potentiel et tant de ressources. À un moment déterminant de notre histoire, spécialement pour le futur de nos concitoyens, je remercie particulièrement le président Macron pour cette reconnaissance pour le combat des Vénézuéliens, pour sauver nos droits et pour commencer à penser à notre futur, pas seulement en termes de bonnes relations, mais aussi en termes de stabilité et de prospérité pour notre pays.
Document RTLM6 réalisé par Sinamir et Jonathan Griveaux. Document à retrouver demain matin, 7h20 en intégralité sur la première radio de France. Après quelques jours de recherche approfondie et l'utilisation d'un petit sous-marin équipé de caméras et de sonars, financé par ses proches, c'est bien l'avion de l'ancien attaquant nantais Emiliano Sala a été retrouvé ce matin au fond de la Manche. Chez Haute-Soufi, on peut se poser ce soir la question de la récupération du petit avion de tourisme désormais.
Remonter l'épave ou la laisser sous l'eau, la question est posée ce soir par le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens aux familles d'Emiliano Sala et de son pilote David Ebotson. Pour le moment, la carcasse de l'avion repose toujours à 63 mètres de profondeur, à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île de Guernesey. À son bord, un corps repéré par les caméras du véhicule submersible télécommandé envoyé sur place. Avant cette découverte, les proches du footballeur avaient clairement exprimé leur souhait de récupérer l'avion. David Munns est celui qui a localisé l'épave à leur demande.
La famille veut absolument que l'avion soit récupéré. Ils ont l'impression que c'est la seule façon de répondre à ces questions. Qu'est-il arrivé à l'avion ? Pourquoi s'est-il écrasé ? Et pourquoi Emiliano a-t-il perdu la vie ?
Mais l'opération est compliquée, périlleuse. L'épave pourrait être endommagée, de même que le corps retrouvé à bord. Outre les risques et le coût de la manœuvre, les conditions météorologiques à cette époque de l'année représentent aussi un obstacle à prendre en compte. Dans tous les cas, le bureau d'enquête sur les accidents aériens continuera son travail et a promis de publier un rapport préliminaire sur les causes du drame dans un délai d'un mois.
Haute-Soufi, en Angleterre pour RTL. La météo pour conclure ce journal, c'est avec vous Patricia Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir à tous, le temps est encore assez froid et humide ce soir sur une bonne partie du pays avec une perturbation qui est arrivée par l'ouest qui donne de la pluie en général, des pluies localement soutenues mais attention, cette perturbation peut également donner des chutes de neige faibles sur le nord, le Pas-de-Calais, le bassin parisien ou encore sur le centre Val-de-Loire. Demain on va retrouver cette perturbation qui sera très atténuée, qui donnera encore un petit peu de pluie du côté des Pyrénées et un petit peu de pluie sur la Bretagne. Ailleurs, beaucoup de grisailles sous forme de nuages bas. Alors que sur les régions de l'Est, eh bien, après dissipation de la grisaille matinale, on profitera d'un ciel lumineux entre l'Alsace et les Alpes et surtout le quart sud-est, avec des températures comprises entre moins 2 et 10 degrés demain matin. Mais les températures vont repartir à la hausse à partir de demain après-midi et on aura des valeurs de saison avec 6 degrés à Colmar, 7 à Nancy, 8 à Paris, 11 à La Rochelle et jusqu'à 14 degrés pour le maximum à Nice et à Bastia.